Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je m'appelle Catherine Dufour et je suis là pour vous parler, vous répondre à la question si les machines nous rendaient immortels. Donc on va parler de l'avenir du corps, de l'avenir mécanique du corps et très exactement de l'optimisation génétique, depuis l'optimisation génétique jusqu'au genetic art. Donc je vais disserter sur trois anthropotendances en essayant de vous présenter ça sous un aspect agréable, voire séduisant. Donc, je vais essayer de me rapprocher de la machine à faire des images. Voilà. Donc, on va commencer par l'optimisation génétique prénatale à destination de tous les parents et futurs parents. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Voilà. Pour vous dire qu'il sera bientôt possible d'optimiser vos enfants en travaillant à même vos gamètes. Seront éradiqués de la cellule embryonnaire 25 maladies auto-immunes, 12 prédispositions aux problèmes vasculaires, au surpoids et au diabète de type 1, 2 et 3, sans oublier l'hypermétropie, la myopie, des malformations osseuses comme la scoliose. Et sur le plan neurologique, de nombreuses possibilités de débalancement cérébral, incluant une tendance aux addictions et à la sclérose en plaques, en plus bien sûr de la schizophrénie et de l'autisme. Bien évidemment, ce pack assurance Belle Vie fait partie de la CGU, couverture génétique universelle. Et vous n'aurez sans lui, de toute façon, jamais l'aval de votre compagnie d'assurance pour vous reproduire. Mais notre pack premium vous offre en plus l'éradication de la calvitie, une taille supérieure à 1,75 m pour les femmes et 1,85 m pour les hommes, un taux de mélanine bas, et en prime, des yeux bleus clairs cerclés de noir. Et voilà. Notre célèbre B123.5, car vous savez tous que la fibre poétique des généticiens donne une assez bonne idée du néant. Non, pas ce néant-là, celui-là. Notre pack premium plus ethnique vous permet en plus de piocher à votre souhait dans notre réserve de séquences génétiques, depuis le thym cuivré amérindien jusqu'à la chute de rein nigériane, en passant par notre célèbre blond danois. Attention, ce dernier, naturellement porté au fouillis, est ravissant sur un visage de 20 ans, mais on vous prévient, il vieillit mal. Bien sûr, si vous avez été irradié, ou si votre fertilité a été mise à mal par les pesticides, nous disposons d'un stock important de séquences ADN pour combler les manques de votre génome, voire de gamètes complets qualité or. Très facile à personnaliser. Nous pouvons aisément, à l'aide d'une simple cellule épithéliale ou même d'une photo, donnez à votre héritier le nez de son grand-père, devis sur simple demande, et le jumeau est offert. Un regret, un remords, une opportunité de carrière. Voilà le jumeau. Et voilà l'opportunité de carrière. Nous pouvons congeler et décongeler vos embryons à votre guise, depuis le stade de la morula jusqu'au fœtus déjà viable. En conformité avec la loi génétique et liberté, nous ne dépassons pas 32 semaines. Le développement en poche externe est disponible pour toutes les femmes qui souhaiteraient conserver leur autonomie et leur taille et leur périnée de jeune fille. C'est horrible. Hein ? De la bêta-lactine leur sera proposée si elles souhaitent cependant allaiter. Maintenant, nous allons passer à une deuxième tendance qui s'appelle le nanocontrôle. Et nous allons d'abord parler de la bague d'Egan. D'ici 30 ans, nous aurons tous à notre disposition un anneau de contrôle médical, dit anneau d'Egan, du nom de l'auteur de science-fiction qui, le premier, en a eu la prémonition. Aisé à placer à n'importe quel doigt, discret comme une alliance, il filtre le sang et la lymphe en continu, détruisant toutes les toxines et les cellules malignes. Adieu, cancer et empoisonnement, au malathon, chlorpyrifos, plomb, mercure, cadmium. Adieu, cuite sévère et drogue néfaste. Adieu, mutations indésirables et rhumes agaçants. L'anneau d'Egan, c'est la santé garantie pour toute la vie. De plus, cet anneau est en mesure de vous signaler à tout moment s'il est temps de vous nourrir et de quels nutriments, fibres, vitamines, protéines, glucides, lipides, vous avez besoin. Il vous conseille sur vos horaires de sommeil, votre durée d'ensoleillement, vous avertit à la moindre baisse de votre masse musculaire tout en veillant sur votre bonne humeur grâce à des dosages très fins de votre sérotonine. Les échanges de données permanents entre votre anneau et les Data Santé Center vous permettent de garder votre bien-être quotidien au plus haut et votre prime de mutuelle santé au plus bas. Sachez aussi que, par accord de branche, la plupart des employeurs sont prêts à vous offrir, en échange du plein accès aux données de votre anneau, une prime par jour ouvrée, pouvant aller jusqu'à 50 euros, plafonnée à 500 euros annuels. Mais nous ne sommes pas que des individus et des travailleurs, nous sommes aussi des citoyens. Élément majeur du plan de réduction de la criminalité et des incivilités mineures, précis, l'anneau d'Egan permet un meilleur contrôle des pulsions antisociales et par là une réduction des coûts en termes de police, justice, maintien de l'ordre, mais aussi en minorant le nombre de dégradations volontaires de matériel public et de violences dans la sphère privée. Obligatoire pour les hommes entre 13 et 33 ans, l'anneau est capable d'abaisser instantanément, en cas de pic, les taux de cortisol et d'adrénaline de votre organisme et de lisser ainsi les chaos émotionnels qui sont hélas fréquents chez les plus jeunes d'entre nous. Cependant, la possibilité d'envoyer au porteur une dose d'hypnotique ou un stimuli électrique plus ou moins dosé ne pourra se faire que sur injonction d'un tribunal. À cet anneau salvateur de notre vécu intérieur, oui, là, faut être un peu vieux pour comprendre. À cet anneau salvateur de notre vécu intérieur s'ajoute la combinaison dite pseudo-peau. Légère, customisable à volonté, elle permet à la peau de respirer librement tout en régulant la température et l'hygrométrie. Avec ses gants intégrés, c'est un filtre efficace contre toutes les formes de pollution, de microparticules et de rayonnement ionisant. En cas d'accident, elle se rigidifie instantanément aux régions choc pour vous protéger et agit comme le meilleur des pansements ou des garrots en attendant les secours. Des capteurs intégrés aux gants permettent un toucher main nue et d'autres capteurs localisés au niveau des zones érogènes vous réservent de vrais moments de détente sur notre chaîne Feel My Porn. Détente. De plus, son col qui peut se déplier en capuche, envoie un flux continu d'air tiède sur le visage. Grâce à cette visière, nager sous l'eau n'est plus un problème, ni sortir par moins 20 degrés centigrades ou marcher au soleil dans les pays hors couche d'ozone. En prime, nous vous offrons le dernier cri des Smooth Shoes. Bénéficiant de récepteurs incorporés à la semelle, celle-ci s'adapte parfaitement à tous les revêtements de sol et vous garantissent une marche aisée même sur les routes les plus chaotiques. Enfin, voici l'Oculus. Clipsable sur la capuche, il permet au porteur de se déplacer en réalité augmentée. Horloge, géolocalisation, messages, news, cours de la bourse, flux syndiqué, bonnes affaires à proximité. Ayez toujours dans votre champ de vision les données qui vous importent. Accepter un espace publicitaire dans votre champ de réalité augmentée minorera d'autant bien sûr le coût de votre équipement. Véritable espace de créativité, personnable en multisensorialité, l'odorat est encore à l'étude. Le CRA, champ de réalité augmentée, est à votre disposition pour votre plaisir et votre confort. Un coup de flou ou un filtre coloré, quand votre vision ne vous montre que du béton gris. Quelques luxes en plus quand le temps est maussade, ou bien un effet d'écho pour magnifier le ronronnement urbain, ou encore un effet ampli quand la conversation que vous voulez suivre se déroule un peu trop loin pour des oreilles humaines. Ça, c'est une variante un petit peu primitive de l'Oculus. L'Oculus vous permet de modifier à votre guise votre bulle personnelle et votre appréhension de l'environnement. Avec lui, tout va plus vite. Les nouvelles importantes dansent sous vos yeux. Les sons sont plus nets, les couleurs plus vives, les paysages plus immenses. La réalité, non merci. Maintenant, nous allons étudier le nanocontrôle. Et dans le nanocontrôle, notamment, les nouveaux marketing. Parce que grâce au neuromarketing, vous pouvez manger comme vous voulez. Dérivé directement des expériences de la cuisine moléculaire et de l'étude des flux existants entre nos papilles et notre thalamus, centre cérébral du goût, la neurofood vous promet les mets les plus fins, les plus délicats et pourquoi pas les plus gras, tout en ne fournissant à votre organisme qu'une quantité strictement calculée de kilocalories épicées de toutes les composantes nutritives dont votre organisme a besoin. Imaginez-vous chez Robuchon, Bocuse, Lasserre, Lucas Carton. Que commanderez-vous ? Canard fumé aux endives et sirop d'érable ? Suivi de saucisses de coquille Saint-Jacques au vinaigre de framboise et à la sauce bleue, puis d'un étouffé de saumon en croûte au coulis de petites tomates vertes, d'un vol au vent de baudruche et de calmar avec du caviar doré, enchaîné avec de la betterave gratinée aux noisettes et aux petits pois nains, des blettes aux chèvres et aux amandes chocolatées, un gazpacho de poulet cru à la bière amère, et risquez-vous même dans le poisson pilote aux tulipes. Les tortillas de maïs bleu fourré, de caille farcie aux huîtres enrobées de pelure de pommes de terre, et pour finir, une méduse au micro-ondes et son coulis de chocolat de régime. À la fin du repas, vous aurez l'impression d'avoir fait le tour du monde des saveurs les plus exotiques, alors qu'en réalité, vous aurez avalé 122 calories et la moitié de votre ration quotidienne en sels minéraux. Telles sont les merveilles, les promesses de la neurofood issue de la créativité des neurochefs, celles qui trompent le monde, mais pas vos papilles. Et maintenant, nous allons passer à Ergo Gamer, le métier d'avenir. Nous sommes tous d'accord. Dans notre société saturée de produits, l'important, c'est bien de créer le besoin. Nous n'allons pas le cacher. La seule solution, parfois, c'est de tangenter des positions éthiques délicates, quoique toujours dans le strict respect des normes en vigueur. Non, c'est là, les normes en vigueur. Et surtout, de savoir faire preuve de créativité, en inventant une réelle intersectionnalité des secteurs industriels. Et justement, l'ergogamer, qui conjugue les savoirs de l'ergonome et du neurologue, en sait plus long que quiconque sur les positions staturales et sur les adductions au jeu. Imaginez un important prospect qui commercialise des minerves en gel auto-chauffant. En partenariat avec un designer de jeux vidéo, voyez cette étonnante intersectionnalité. L'ergogamer émule chez les joueurs des postures à risque qui peuvent, si les temps de jeu indiqués sur la notice ne sont pas respectés, aboutir à des troubles musculo-squelettiques. Labellisé jeu à risque selon les normes en vigueur, le jeu offrira en bonus, en fin de fin, une remise de 20% sur les minerves en gel auto-chauffant. L'ergogaming, c'est merveilleux. Et maintenant, parlons de photomarketing. Un choix ou un scandale ? L'œil et le cerveau chez l'embryon, l'œil et le cerveau, chez l'embryon, c'est la même chose. Le nerf optique n'est qu'un faisceau de neurones qui relie nos yeux au cerveau. On a remarqué il y a longtemps que certains scintillements pouvaient déclencher des crises d'épilepsie ou que le manque de luxe pouvait déclencher des dépressions saisonnières. On sait que la lumière a une action au niveau des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. C'est pourquoi les chercheurs ont mixé les neurosciences, l'ophtalmologie clinique, la chronobiologie et l'électrophysiologie visuelle. Pour être plus clair, ils se sont intéressés à l'axe lumière-œil-cerveau. Depuis peu, ils ont sérieusement progressé dans l'utilisation des photos à des fins biologiques. Bon, tout ça, bien sûr, on dit que c'est la science-fiction, mais c'est actuellement en cours, vous l'avez tous compris. Malheureusement, ces recherches connaissent désormais des usages criminels. Ainsi, certains sites de dating sont truffés de photostimuli toxico-génériques. Messages, photos, vidéos, chatroom sont piégés visuellement de façon à créer chez l'utilisateur un sentiment de bien-être par stimulation de la production d'ocytocine via la rétine. L'ocytocine est une hormone qui intervient dans la formation du lien amoureux. Disons que c'est l'équivalent d'un bon bain chaud suivi d'un bon baiser bien profond. Donc voilà, un bain chaud et un deuxième bain chaud. Ce que les usagers de ces sites de dating éprouvent, bien sûr, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance, un débalancement cérébral provoqué via leur nerf optique. Évidemment, qui dit bien-être artificiel dit situation pénible de manque sitôt que le stimulus cesse. Ce manque est observé par le site dans le but de contraindre les utilisateurs piégés à démonter en gamme vers des abonnements Master, Gold ou Platinum. Toujours malheureusement, ce type de photomarketing n'est pas juridiquement attaquable. Vous vous souvenez du procès contre les fabricants de tabac ? Les plaignants ont gagné. On n'a pas le droit de vous vendre un cancer du fumeur. Mais est-ce que vous vous souvenez du procès sur la lingerie 3D ? C'était une action collective d'usagers dérangés par une des premières campagnes de charme 3D qui mettait en scène des seins ronds et des fessiers comme deux pêches. Les plaignants ont perdu. Dans notre société, on a le droit de vendre de la frustration sexuelle. Abîmer les poumons, non. La libido, oui. Un peu plus tard, une célèbre marque de voiture a lancé la première aéroporteuse. Un beau squale, rapide comme une comète et maniable comme une vache. Dans ce créneau, il n'y a que du haut de gamme. Rien pour les pauvres, ni même pour les demi-riches ou les adeptes du surendettement. Des citoyens malades de frustration sociale ont porté plainte. Nouvel échec. C'est ainsi qu'on a pu établir une liste des souffrances autorisées. Cancer, non. Mélanome, sauf le mélanome dû au soleil, sinon les marchands de maillots de bain auraient tous fait faillite. Obésité, oui. Ronald McDonald a le bras long. Frustration sexuelle, oui. Sentiment de dépréciation sociale, oui. Sentiment de dépréciation raciale, oui. Dépression, oui. Cholestérol, non. Choc allergique alimentaire, non. La déception amoureuse, hélas, fait-elle aussi partie des souffrances sociales autorisées pour fluidifier les circuits commerciaux. Heureusement, il existe désormais un nouveau traitement qui consiste à faire un dosage neurologique. En le comparant à un diagramme de référence qui dépend de l'âge, du genre, du poids et du sujet, il rétablit le fonctionnement normal de ses neurotransmetteurs. Je vous annonce la fin d'une bonne partie des maladies mentales, de toutes les mauvaises descentes et même des mauvaises humeurs. Et le marketing hormonal alors, me direz-vous ? Est-ce un mythe ou une réalité ? Selon le journal Nature du 11 janvier 2030, le microtus orchrogaster, mâle, voilà, ça c'est le marketing hormonal. Voilà le microtus orchrogaster mâle. C'est un rat, donc. Traité avec un inhibiteur de la vasopressine, c'est une hormone, perd à la fois sa tendance à être un parent et un conjoint attentif. Mais un contre-traitement rétablit ses tendances. D'autres équipes ont déjà noté l'importance de cette hormone dans le développement du sentiment paternel. Un premier test sur l'homme se révélerait convaincant, mais il serait bien sûr contraire à l'ethical Blow Law, dont GenLab 2 est signataire. Tout de suite à ce sujet, pour être imputable à un espionnage industriel piloté par les métiers intéressés, à savoir les avocats spécialisés en divorce, les pédopsychiatres, les cellules de traitement des stress affectifs, les sociétés immobilières disposant d'un important parc à destination locatif de meublés pour célibataires, les sociétés de distribution de biens de grande consommation à destination des célibataires, plats individuels, anxiolytiques, esthéticiens, clubs de rencontres, spiritueux, clubs de remise en forme, porn-industrie, liste non exhaustive. Mais une fois que tout le monde a divorcé, qu'est-ce qu'on fait ? Certains acteurs économiques pourraient estimer qu'un bouleversement régulier des modes de vie conjugaux des consommateurs serait un facteur efficace de relance de la consommation. Avec l'avantage que ces campagnes hormonales pourraient être précisément circonscrites dans le temps, permettant ainsi de planifier à l'avance les cadences de production nécessaires. Et en plus, ce contre-traitement pourrait être sponsorisé par les acteurs économiques complémentaires. Donc quand on a besoin que vous reconsommiez en tant que parent, on vous donne le contre-traitement. Et là, vous redevenez monocame et affectueux avec vos enfants. Ce qui enrichit les fabricants de matériel de puériculture, restaurants familiaux, villages vacances famille, matériel ludo-éducatif. Je me mélange. À la lumière de cet article, nous pouvons constater qu'avec l'hormono-marketing, nos industries vont enfin pouvoir planifier sur le long terme leur production et mettre ainsi un terme aux bulles spéculatives qui entravent notre belle économie. Voilà. Spéculateurs contents. Et maintenant, nous allons parler de self-customisation, implant, greffe, autogreffe. Dès le XXe siècle, nous avons pris l'habitude de customiser notre corps avec des tatouages, des piercings et des implants sous-cutanés. Mais ce n'est rien comparé aux greffes et aux autogreffes que nous pouvons aujourd'hui nous permettre et qui ont entraîné cette explosion de créativité qui pose parfois quelques problèmes éthiques. Je vous présente donc Silver Russell, le fœtus de clone congelé. parfaitement viable, décongelable à volonté en grossesse interne ou externe. Silver Russell peut aussi être porté en boucle d'oreille, en pectoral ou en fermeture de sac à main. Une fois mis à pousser dans une ferme de clones, il vous fournira pour vos vieux jours tout l'appui que vous pourrez souhaiter. Poumons, foie, cornée, épiderme et même, pourquoi pas, une oreille amie. Pour nos amis multisexuels, gender fluide et pangender, nous proposons la culture in vitro suivie de l'implantation in vivo de phallus, vagin et tout sexuel caractère sexuel secondaire. La règle générale limite à deux les organes génitaux primaires, le plus souvent le phallus devant et le vagin derrière, mais chacun fait ce qu'il veut, toutes les combinaisons peuvent être envisagées. Faciles à greffer et à dégreffer, ces organes pourraient être conservés en pochons individuels pour une utilisation ultérieure ou comme décoration de salon. Ou encore être mis en culture derrière l'oreille. Le clitoris est une option automatique en cas de vaginoplastie et s'insère très bien derrière le phallus. Les testicules sont plus controversés, mais comme le dit le proverbe, tout le monde a besoin de quelque chose à gratter au réveil. Je sais, c'est pas très classe. Les seins, eux, sont question de goût. Certains trouvent ça encombrant, d'autres aiment en avoir une paire sous la main pour pouvoir s'exercer à l'autopalpation. Le tissu glandulaire ou clitoridien peut lui être étendu et implanté où vous voulez. Un exemple, vous attendez chez le dentiste, l'ennui s'installe, mais heureusement, vous avez pensé à vous faire implanter quelques petits capuchons clitoridiens derrière le genou. Et vous passez une demi-heure merveilleuse qui vous amènera dans le fauteuil du dentiste dans un état de complète détente. Nous attirons cependant votre attention sur les contraintes de l'ordre public, ainsi la jurisprudence a statué au sujet de l'autogreffe de phallus en plein milieu du front ou sur toute zone visible, elle est désormais interdite. Certains plaisantins, prenant au pied de la lettre l'expression « il fait noir comme dans un chemu », font retapisser leur velours souterrain de photo-implants. Il semble que l'effet amène un grain de cocasserie à l'acte sexuel. Voilà. Parce que le The Velvet Underground, ça vient de là, c'est le velours intérieur, je ne sais pas si vous le saviez. Mais le sexe n'est pas le seul espace de créativité de la self-customisation. Plus prosaïquement, certains de nos concitoyens se font implanter des spots dans les dents. Ça, c'est du vrai. On allume et on éteint dans un mouvement de mâchoire. Non seulement c'est extrêmement commode quand on perd ses clés dans le noir, mais en plus, ce dispositif permet de retrouver facilement les morts dans la nuit parce que les cadavres bâillent. Le problème des ronfleurs est à l'étude. Nous attirons cependant votre attention sur la nécessité de préserver un certain nombre de codes identitaires, ne serait-ce que pour rester reconnaissable aux yeux de vos proches. Qui a changé 20 fois d'iris, 10 fois de papille, 3 fois d'anus, de visage, de cheveux et même de larynx, risque de ne plus retrouver ses amis, surtout si ceux-ci ont le même mode de vie. Méfiez-vous aussi des contrefaçons. Les emplois intellectuels ou faisant appel à la simple force musculaire étant de plus en plus rares, la moitié de la planète en est réduite à vendre ses fesses, ses reins, ses plaquettes, son plasma, ses leucocytes, ses neurotransmetteurs, ses neuromédiateurs, ses hormones, sa moelle, ses gamètes, son humeur vitrée et ses cellules totipotentes. La qualité n'est que rarement au rendez-vous. Aussi convient-il de se méfier. L'autogreffe, quoique plus coûteuse et nécessitant parfois une mise en culture longue, reste la pratique la plus hygiénique. Méfiez-vous aussi des hormones de loisir. Les phéromones notamment, ce qu'on appelle en langage populaire le rut de synthèse, mènent parfois à des overdoses très gênantes. Enfin, nous allons finir avec les modifications génétiques, car la self-customisation ne serait pas ce qu'elle est sans la biogénétique. Ainsi, certains adeptes de la lumière ont hybridé leurs hématies avec des gènes de photoplancton permettant d'amener la lumière jusque dans leurs organes les plus obscurs, jusqu'au fin fond de leurs rates. Cette fuite devant les ténèbres a quelque chose, bien sûr, à voir avec l'angoisse de la mort. D'autres hybridations entre les cellules capillaires et des anémones de mer nous ont infligé la mode un peu répugnante des cheveux qui bougent tout seuls. Certaines modifications génétiques ont un effet plus concret et des effets secondaires sur lesquels je souhaite attirer votre attention. Certains de nos concitoyens sont devenus de vrais nyctalopes, ce qui pose des soucis d'adaptation à la lumière du jour. D'autres entendent les infrasons et les ultrasons et doivent porter des casques insonorisants, à moins qu'ils n'aient recours à des paupières d'oreille, encore défectueuses à ce jour. Un cobaye a tenu à se doter d'un sens aigu du toucher digne d'une muqueuse. Résultat, ils sont à pas à 100 mètres devant lui, mais chaque fois qu'il se gratte, ça lui résonne jusque dans les gencives. Il est bien sûr possible de plonger dans l'archaïsme de nos gènes, ce qui permet aux plus aventureux d'entre nous de se promener avec des esquisses de branchies, une queue dorsale et des doigts palmés. Mais la modification génétique la plus courue reste celle de genre. Nombre de XY ont commencé par être des XX. Ils se sont fait, comme on dit familièrement, raser une jambe de l'X. Malgré toutes les incitations gouvernementales, dès qu'il s'agit de se reproduire, nos concitoyens choisissent tous, hélas, de faire pousser un mâle. Et les rares femelles qui poussent, dès qu'elles le peuvent, se payent le plein de testostérone. Tout simplement parce que ça fait venir les muscles. Toutes celles qui se promènent avec de beaux seins et une taille de guêpe, sitôt que la violence s'invite dans leur environnement, sortent de dessous leur nuisette de gros biceps. Je ne dis pas que la féminité, ce n'est pas sympa à vivre, mais les biceps, ça aide à mieux survivre. Une autre modification génétique courante reste le food switch, mais je vous invite à la prudence. Se nourrir par photosynthèse peut sembler tentant, mais il est dommage de tirer un trait sur un sens aussi délicat que celui du goût. Une fois que vous vous serez fait rectifier l'épiderme, vous devrez vous exposer beaucoup aux UV pour vous nourrir suffisamment. Si les plantes ne bougent pas, ce n'est pas un hasard. Le mouvement consomme beaucoup de calories. Allez. Pour les plus coquets et les plus frileux, voire les plus pudiques d'entre nous, renoncer aux artifices vestimentaires reste une épreuve. Et vitalement, ce n'est juste pas possible de renoncer à la fois à l'ingestion et aux UV, c'est tout. La mode de l'atrophie de la mâchoire par arrêt de la mastication est, je vous en informe, une mode dangereuse. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais quand même vous livrer une conclusion qui est un peu moins fantasmatique et un peu plus philosophique. Pour vous proposer une piste de réflexion, donc, mâle ou femelle, ou gender fluide, beau ou bizarre comme des dieux, connecté au niveau cellulaire, fait et refait partout, implanté avec n'importe quoi, né de gamètes rectifiés en grossesse externe, pratiquant l'orgasme par stimulation du thalamus ventral latéral postérieur droit, j'ai répété, et le lien social via les réseaux, plus une dose d'ocytocine pour la plénitude affective, nous ne nous sentirons pas un peu éparpillés et surtout contrôlés. Pas contrôlés par l'extérieur, mais par nous-mêmes, par le confort que nous donne cet éparpillement. Je vous laisse méditer et me poser des questions. Si vous voulez, on peut parler de la mort, c'était le thème... Voilà, alors là, en fait, je n'ai pas parlé dans cette mini-conférence du thème de base qui était si les machines nous rendaient immortels. Là, effectivement, c'est de la mécanisation, de la machinisation, de la soi-disant optimisation du vivant. Parce que là, je l'ai présenté sous un angle marketing en essayant de vous vendre mes packs premium. Et très logiquement, je pense que l'immortalité, dès qu'elle sera possible physiquement, ne sera pas proposée au tout venant. Il ne nous sera pas proposé parce que si les 7 milliards d'individus décident de se payer l'immortalité, si on leur offre l'immortalité, ils vont dire oui tout en continuant à se reproduire. Je pense que Ray Kurzweil et autres patrons de Google travaillent déjà, on le sait, énormément sur la question de l'immortalité, mais il est hors de question que ça sorte de leur laboratoire. Et si eux deviennent immortels, on le comprendra lentement quand ils continueront à être à la tête du board au bout de 50 ans, 100 ans, 150 ans. Là, on pourra effectivement se dire qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne nous ont pas communiqué. Et pour moi, il paraît évident que d'abord, l'immortalité en boîte est en marche et qu'en aucun cas, elle ne descendra dans les sphères du tout venant dont nous faisons partie. On est bourré de micros.
Bonjour, ma question était, vous parliez souvent d'optimisation, mais où est-ce que vous mettriez la limite entre ce qui est une correction d'un handicap et une amélioration qui peut être complètement futile, voire dangereuse dans des cas extrêmes? Justement, c'est très compliqué de savoir jusqu'où on se permet d'améliorer ce qui ne marche pas ou de complètement inventer un truc qui n'existait pas et qui devient futile. C'est vraiment quelque chose ou une question qu'on ne se pose pas encore parce que ces moyens n'existent pas encore concrètement. Mais on va tomber à la fois... On peut tomber dans un extrême où on ne touche pas aux vivants, même pour soigner les gens, parce que sinon, c'est un peu ce qu'il disait dans la conférence de ce matin, ça peut être vu comme affaiblir la race, de permettre à des personnes malades, moins efficaces de vivre. Ou après, on peut tomber dans l'autre extrême où on se permet tout et n'importe quoi. Et du coup, savoir où est la limite raisonnable, c'est compliqué.
Alors oui, c'est évidemment la grande question. Alors, on va être clair, on va se permettre tout et n'importe quoi. L'être humain est incapable, quand il est face à une innovation et qu'il arrive à la faire, il est incapable de se retenir pour des raisons intelligentes, mais incapable. Donc, on va faire tout et n'importe quoi, on va faire tout ce qu'on... On va se découvrir capable de faire. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. On va faire des stupidités monstrueuses. Alors là où ça va être délicat, c'est notamment au niveau des enfants, parce que ça va interpeller le lien parental, les désirs parentaux. Quand on va venir vous voir en disant « Est-ce que vous auriez pas envie que votre enfant soit surdoué, mesure 1m90 ?» Et si en plus il pouvait être blanc socialement, c'est quand même plus facile. Et un homme socialement, c'est quand même plus facile. Mais vous pouvez être sûr qu'à partir du moment où ça sera rapide et facile à faire, bien sûr que ce sont des choix qui seront faits et ça sera la catastrophe. On se retrouvera qu'avec des mâles blancs d'un mètre 90. Bon, d'un autre côté, ça réglera le problème de l'espèce humaine s'il n'y a que des hommes. Mais c'est déjà le cas, puisqu'il y a en Inde, il y a des camions d'échographie qui tournent et les femmes enceintes, elles se font échographier et dès que c'est une fille, elles font un avortement. Il y a déjà 100 millions de bébés-filles qui ont été avortées au Pakistan et en Inde. Dès que c'est possible, on le fait. Ça, c'est ce qui est à la fois la grandeur de l'homme et probablement sa probable destruction. Quoi. On ne saura pas s'arrêter. C'est trop rigolo.
Vous l'aviez à peine esquissé tout à l'heure avec les primes patronales, mais les modifications sont tout le temps dues à la volonté des gens. Mais par exemple, pour la volonté du patron, ça peut être aussi plus intéressant. Diminuer le cycle circadien pour faire les 3-8 avec une personne, augmenter sa sensibilité lumineuse, donc les nictalopes pour et faire les économies d'éclairage, etc.
Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, là, au niveau du patron, je m'inquiète pas trop. Ils vont nous remplacer par des robots qui, eux, n'auront même pas besoin de cycle circadien. Je suppose que vous êtes tous au courant, vous avez lu les derniers articles où on arrivera à entre 20 et 30% de chômage d'ici 2020 parce que là, il va y avoir une mécanisation de beaucoup d'emplois qu'on n'imaginait même pas mécanisables. Par contre, le fait que le patron, du moins le patronat, exige... certaines caractéristiques et certaines modifications. Enfin, c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous faire embaucher chez L'Oréal, mais déjà chez L'Oréal, il y a un look L'Oréal où on ne vous embauche pas à moins d'1m70, on ne vous embauche pas au-dessus de 60 kilos, on n'embauche pas les femmes à cheveux courts, etc. Ça, c'est déjà le cas, bien sûr, ça n'est pas dit, mais c'est connu et c'est su. De toute façon, il y a toujours eu... On ne va pas parler uniquement du patronat, parce que ça fait un petit peu le deus ex machina qui fait du mal à tout le monde. Mais il est évident qu'on embauche... Enfin, moi, on ne m'embaucherait pas pour faire des ménageurs. Il y a de toute façon des exigences d'un métier. Et il y a déjà énormément de négligence des... patronale, en tout cas des normes de travail qui existent depuis très longtemps. C'est pour ça que parler à ce niveau-là de science-fiction, non, le mépris du travailleur date de a pas attendu la science ni la science-fiction. Et là, par exemple, dans les métiers du bâtiment, ils commencent à faire des conditionnements, des sacs, sable, ciment et autres, à 25 kilos. Et là, ils en étaient à 50. C'est parce qu'ils avaient râlé, parce que tous les sacs étaient à 100. C'est-à-dire que tous les sacs de toutes les maisons dans lesquelles vous avez pu entrer, a été transportée à dos d'homme. Or, aucun homme ne peut transporter des sacs de ciment de 100 kilos sur son dos sans y laisser son dos, même s'il est très grand, très fort et très musclé, à un moment ou à un autre, il va y laisser son dos. Alors que si on conditionne en 25 kilos, il pourra exercer son métier 10, 20 ans, 30 ans, sans avoir d'abord la ceinture de force et puis après une interruption définitive de son activité. Parce qu'il a la totalité des disques esquintés. Et le conditionnement en sac de 25 kilos, ça commence tout juste. Et c'est quand même extrêmement désolant d'avoir attendu des siècles pour arriver à cette petite amélioration qui était quand même facile à faire, bon Dieu. Bon, voilà. Donc je pense absolument pas que la martyrisation des corps par le travail date d'aujourd'hui ou de demain, quoi.
Bonjour. Je voulais. Je suis là. Moi, je voulais poser une question finalement assez simple. C'est si on va jusqu'à toucher nos gènes, notre génome, est-ce que finalement on peut encore parler d'humanité ? Surtout que le propre de l'homme, c'est quand même de mourir à la fin. C'est quand même de mourir à la fin.
Ah oui, alors ça, c'est une excellente question. Alors, en touchant, oui, en touchant le génome, est-ce qu'on pourra encore parler d'humanité ? L'humanité n'est qu'une filiation. Alors, s'il y a une rupture brutale, c'est-à-dire tout d'un coup, on met au point un être humain qui a 6 jambes et 3 nez, effectivement, il y aura une rupture. Mais moi, je crois plutôt à une évolution lente et qu'on a déjà vécu ce siècle-ci avec la disparition d'énormément de maladies, où nous sommes les héritiers très grands en taille d'un peuple il y a juste 100 ans. Quand on voulait embaucher des jeunes conscrits, on prenait les plus grands, hein, c'est-à-dire 1m67. Quand vous étiez petit dans une classe de 20 ou 30 gamins, que je me trompe pas, sur 20 gamins, logiquement, vous auriez dû perdre à peu près 16 de vos copains de maternelle. Hein, à l'heure actuelle. Donc ça vous aurait aussi façonné quand même une façon de voir la vie un peu différente de celle-ci. Vous, logiquement, là, vu votre âge, vous ne devriez plus avoir de dents du tout. Et il y en a la moitié qui, a priori, devait être en train de cracher parce que tout le monde avait la tuberculose. Voilà, on avait soit la syphilis, soit la tuberculose, soit les deux. Donc nous sommes les héritiers magnifiques avec des dents splendides et tous en vie. Et gigantesques de gens qui, si on les rencontrait maintenant, nous paraîtraient très différents. Mais l'évolution s'est faite de façon assez insensible, même s'il faut dire que tous ces progrès se sont faits, alors peut-être pas en un siècle, mais enfin en un siècle et demi. Les antibiotiques, ça date d'il y a 60 ans, mais avant, il y avait quand même eu les progrès de l'hygiène qui fait qu'au XVIIIe siècle, pour amener 2 enfants à l'âge adulte, il fallait en faire 12. Fin 19e, quand même, on disait faut faire 3 enfants, un pour le père, un pour la mère et un pour la casse. Voilà, globalement, sur 3 enfants, on en amenait 2 à l'âge adulte, il n'y avait plus une mortalité aussi grande parce qu'on s'était mis à se laver et puis à faire bouillir le lait, enfin des choses assez élémentaires. Donc l'humanité s'auto-définit. À partir du moment où il n'y a pas une rupture brutale de ses représentations, elle change même quelquefois très vite, mais elle se définit toujours... comme étant humain, même si l'être humain d'il y a 200 ou 300 ans se dirait « Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc ?» Alors une autre question, c'est celle de la mort. Alors la mort, c'est absolument indémerdable comme question, personne n'a envie de mourir. Plus on s'approche de la mort, moins on a envie de mourir. Et il est évident qu'il faut mourir, il faut absolument laisser la place au suivant. Quoi. Imaginez s'il y avait encore Louis XIV aux commandes du pays, ça serait abominable. Vous remarquerez que quand il y a un endroit... En ce monde où ça se passe pas très bien au niveau politique, spirituel, c'est parce que il est régi par une grille de lecture trop vieille. Voilà. Alors j'ai même pas parlé des religions parce que c'est évident. Mais vous prenez un truc comme l'apartheid, c'était tout simplement une grille de lecture qui datait des Pays-Bas au XVIIe siècle et qui était encore en vigueur au XXe siècle. Ça ne marche pas. Vous regardez les mafias, les 3 mafias, la Ndrangheta, la Cosa Nostra et la Camorra. C'est une histoire de 3 cavaliers du Moyen-Âge qui ont formé ces 3 clans et ça a été maintenu à travers les âges par l'alliance entre l'Église catholique et le règne des Bourbons-Parme. Et ça donne cette catastrophe absolue qu'on nomme la mafia, qui est une hydre dont le seul but est de détruire toute tentative d'un pays de se doter d'infrastructures à peu près correctes. À partir du moment où ça se passe mal dans le monde, c'est que le monde, justement, n'a pas su tuer le vieillard pour avancer. Donc, malheureusement, on risque de devenir immortel et je pense que c'est une pure catastrophe au niveau collectif, même s'il est évident que mourir est une catastrophe au niveau individuel. Et ça c'est une faille irréductible. Si on aime nos enfants, il va falloir qu'on accepte de crever.
Moi, j'avais lu un article sur Internet, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai... L'article était titré « L'homme qui vivra plus de 1000 ans est déjà né ». L'homme qui vivra plus de 1000 ans est déjà né. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez.
Non, alors là, je crois pas quand même. Voilà, alors c'est vraiment mon opinion. Alors, c'est un peu le problème, parce que je suis auteur de SF, donc je suis censé me tenir au courant. Et alors, avant, j'arrivais à anticiper, facile. Ensuite, je me suis aperçue que dès que j'anticipais un truc, j'aurais mieux fait de lire nature parce que bah, c'était dans un laboratoire. Et puis maintenant, mais carrément, ça existe depuis 5 ans, quoi. Donc, si ça se trouve, l'homme qui aura plus de 1000 ans est déjà né, c'est parfaitement possible. Là, je viens de. Les dernières choses, moi, qui me posaient problème, c'est qu'on arrive à être totalement isolé dans notre bulle. On peut se mettre un Oculus, on peut se mettre un. Des écouteurs, etc. Sûrement, on va réussir à avoir des bulles thermiques. Et puis, on a bien sûr cette réalité virtuelle. Bon. Il y a un seul problème, c'est l'espace auditif. L'espace auditif, alors olfactif aussi, bon, on le sait tous quand on s'est assis à côté de quelqu'un qui a oublié de se laver dans le métro ou dans un bus. Mais le gros problème, c'est l'espace auditif. On est très, très embêté par le bruit des autres. Et je me suis dit, ça serait merveilleux si on pouvait créer un cône de silence ou une bulle. On fait une fête à tout casser à côté, à la grand-mère qui dort et on s'embête pas. Voilà. Donc j'ai extrapolé cette capacité à maîtriser donc un espace auditif vers 2300. Alors pas du tout, ça vient de sortir, ça s'appelle Muzu. C'est un petit boîtier que vous posez et vous pouvez vous créer avec quelques-uns de vos copains ou avec vous tout seul votre espace auditif personnel. C'est-à-dire que moi, tout ce que je projetais à 100 ou 200 ans, c'est déjà inventé hier. Donc déjà, c'est que je vieillis, c'est clair. Et ensuite, c'est que ça s'accélère. Donc effectivement, peut-être bien que l'homme qui va vivre 1000 ans est né aujourd'hui. Par contre, il y a une chose où je me demande comment est-ce qu'on va résoudre ça, c'est ce qu'on appelle la carte, la géoneurologie. C'est-à-dire qu'on est tous quand même avec des cadres. Et comment est-ce qu'on fait pour évoluer cette carte est quand même figée, elle est susceptible d'évoluer, mais il s'agit vraiment d'une carte de notre monde. Et comment est-ce qu'on va faire pour comprendre quelque chose dans 1000 ans, alors que je vois même la génération d'avant la mienne, qui n'est pas native, est-ce que vous avez déjà vu affaire à un non-natif, essayant de composer un mail ou d'utiliser un smartphone? Ça les dépasse de la tête et des épaules. C'est absolument effrayant. Moi, j'ai vu des vieilles personnes mettre 2 jours à mettre un accent circonflexe sur un E, quoi. Les smartphones, ils sont comme une poule face à un boson de Higgs. Donc, si ça s'accélère et que déjà les gens nés avant, on va dire, 1950, n'arrivent pas à suivre dans les années 2010, quelqu'un qui est né dans les années 2010, comment est-ce qu'il va suivre quoi que ce soit en 3010? Voilà. Alors, il existe peut-être, mais peut-être qu'il va passer les 500 prochaines années collé au fond de son fauteuil à dire au secours, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est très enviable d'être cette personne-là.
Je me disais juste, il y a des personnes âgées okay, qui peuvent peut-être paraître dépassées face à la technologie, mais je connais aussi des personnes âgées qui se débrouillent très très bien aujourd'hui. Je pense que c'est plus une question de volonté de l'individu de vivre avec son temps plutôt qu'un simple problème de carte neurologique.
C'est une question de chance. Il y a des gens qui vont rester souples et qui vont s'adapter. Et puis, il y a des gens qui vont juste pas du tout y arriver. Effectivement, il y a certaines personnes de 80 ans qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres qui en ont 60. Voilà. Par contre, moi, je connais pas de personnes de 30 ans qui arrivent pas à faire un mail. Et alors là, ça c'est l'injustice génétique. En gros, il y a des gens qui restent souples. Je vais pas vous dire qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres, mais enfin, ça revient quand même un peu à ça. Mais cette faculté d'adaptation, à un moment, de toute façon, on plafonne tous à un moment ou à un autre. Voilà, et on a parlé, dernièrement, c'était Snapchat. Enfin, il y avait une application pour jeunes où les plus de 30 ans, ils arrivaient déjà plus, quoi. Ils comprenaient pas, ils trouvaient que c'était pas intuitif. Et alors, moi, je suis très fière parce que j'étais avec une copine, on était en train de chasser les Pokémon, et elle arrivait pas à pêcho les Pokéballs, quoi. Alors qu'elle a 25 ans, et moi j'ai fait zwip, et j'ai dit, voilà, bon. Et c'est vrai que c'est marqué nulle part, c'est une question d'intuition. Moi j'ai déjà commencé à plafonner dans plein de domaines, et je vois les gens derrière moi plafonner de plus en plus jeunes. Par rapport à mes propres fils qui eux ont 11 et 17 ans, donc eux ils plafonneront. Alors justement c'est marrant ça aussi, est-ce qu'on va pas se mettre à plafonner? Est-ce que ça sera à 25 ans, ou à 35, ou à 45? Est-ce que va pas y avoir comme ça une obsolescence de plus en plus rapide, je ne sais pas. Mais vous avez tout à fait raison, ça dépend de la personnalité. Il y a enfin, je sais pas, J'avais dû croiser Claude Lévi-Strauss qui, à 99 ans, effectivement, avait été, été trois fois plus intelligent que moi maintenant, quoi. C'est sûr. Non, mais il y a des gens qui ont des avantages comme ça.
Je voulais revenir sur un point. Je ne suis pas trop un expert du domaine, mais il me semble qu'en dans la théorie de l'évolution, il y a un peu deux écoles qui s'affrontent. Il y en a une qui dit que l'humain a évolué parce qu'il avait une capacité, enfin, ses gènes étaient plus forts que ceux du voisin. Il tuait le voisin, il violait sa femme, et ensuite il avait des enfants, et c'était ses gènes qui se reproduisaient. Et l'autre théorie qui s'oppose un peu à ça, qui dit que l'homme évolue parce qu'il est altruiste, qui s'occupe des personnes âgées, qui éduque les enfants, que les personnes âgées, du coup, apprennent aux enfants, et que c'est comme ça que l'homme arrive à évoluer. Ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, ça va clairement dans le sens de la première vision. On va améliorer ses gènes, on va être plus balèze, on va écraser ceux qui n'ont pas leurs gènes améliorés. On risque de voir très très vite si c'est une impasse et si on tombe dans le trou, non ?
Oui, enfin, la question en fait c'est est-ce qu'on sera sauvé par notre altruisme ou par notre cruauté ?
Oui, voilà, est-ce que ces deux visions qui s'opposent, on risque très vite de voir, vu qu'on est plutôt en train de favoriser la première, si c'est une impasse pour l'espèce humaine à très court terme.
Mais je crois que le problème se pose plus en termes politiques. Là, on a énormément d'atouts qui, à partir du moment où ils sont saisis par le peuple, pour le peuple et pour son usage, peuvent être drôlement bien. Tout ce qui est mécanisation, le fait que maintenant, c'est des machines qui descendent dans les mines et plus des humains, on va pas regretter la scoliose, quoi. Mais si, par contre, la personne qui ne descend plus dans la mine crève de faim dans la rue, au lieu de bénéficier d'une allocation de redistribution technologique qui devrait exister déjà, c'est donc pas non plus une solution. Donc, le problème n'est pas du tout scientifique ou technique. Le problème est purement politique. Il faut pas que ce soit les GAFA qui possèdent cette science-là et qui s'en sert pour s'en mettre plein les fouilles. Il faut que ce soit le peuple en général, les démocraties qui les chopent et qui s'en servent. À partir de là, on obtiendra un monde avec une gouvernance correcte. Si on laisse Google et consorts tout industrialiser et nous mettre tous on the dole au chômage, ça va être une catastrophe et on y va directement. On entend parler de revenus universels. La compensation technologique versée par les multinationales aux gens qu'elles mettent sur le carreau, on en entend moins parler. Donc là, on a tous l'impression qu'il y a une direction politique, la direction politique accompagnant les changements scientifiques qui, eux, sont, on va dire, neutres. Mais la direction politique qui l'accompagne est juste cataclysmique et c'est juste pas ça qu'il faut faire. Il faut faire la révolution et puis prendre le pouvoir. On est tous d'accord. Et ça vient pas vite. Maintenant, d'un autre côté, par rapport à moi qui suis maintenant un vieux machin de 50 ans, ce que j'ai pu voir, il y a quand même un réveil de la sphère civique qui est très très intéressante. Qui justement essaye de se poser ce genre de questions. En ne pariant pas tous sur un grand soir, on va faire la révolution qui va tout changer, en attendant, on ne fout rien. Ça, je trouve ça très bien. Même si une des grandes discussions que moi je retrouve en ce moment, c'est... Donc en gros, on parle de non-violence, et la plupart des gens disent non, la non-violence, par contre, on est bien au courant, ça ne marche pas. La bonne parole ne se répand bien qu'à coup de baffe, quoi. Voilà, il va falloir à un moment rentrer dans le rapport de force pour récupérer ce qui nous est dû. Mais moi je pose plutôt ça en termes de politique. Il manque un accompagnement politique à cette révolution scientifique. Bon, je crois que je vais arrêter là pour céder la passe au suivant. Si ce truc veut bien me donner l'heure. 52. Alors une dernière question ?
Par rapport à la vie très longue, il y a un livre que j'ai lu très récemment, parce que jusqu'à présent, je trouvais que c'était un bouquin de vieux, donc pas intéressant, et que j'ai lu qui est « Tous les hommes sont mortels », et qui est excellent, parce que ça parle justement d'un homme qui a acquis la capacité de ne pas mourir, et en fait, ça lui pourrit la vie, justement, parce que il devient inhumain. Parce que pourquoi s'intéresser au monde alors que tout le monde va mourir en l'espace d'un claquement de doigts ? Pourquoi s'intéresser à tout le reste alors que lui, il craint rien, il peut même pas se suicider. Et je trouve que c'est une vision assez intéressante de qu'est-ce qu'on obtient quand on a une mortalité. Ben, en fait, c'est une plaie plus qu'autre chose. Et par rapport au début de la conférence sur les modifications physiques, rien que sur des choses très basiques et faciles, il y avait un montage photo qui était excellent, qui montrait les photos des candidates de Miss Corée de 2015 ou 2016. Et tous les visages se superposaient exactement parce qu'elles sont toutes opérées depuis très jeunes pour se faire agrandir les yeux, réduire le nez, modifier la mâchoire. Et en fait, elles se transforment toutes en Barbie. Elles ont toutes le même visage avec la même forme parce qu'on est déjà dans la contrainte sociale de correspondre à quelque chose pour obtenir un mari, obtenir un ça. Et c'est déjà arrivé, un riche coréen a obtenu le divorce parce que leur enfant était moche. La femme était laide, s'est fait opérer, et le gamin était moche parce que les gènes ne mentent pas. Il a obtenu le divorce avec raison pour ça.
Oui, mais enfin, il faut le mettre à la poubelle, ce monsieur. C'est pas comme ça qu'on accueille un gamin, mon Dieu. Alors oui, c'est vrai, effectivement, elles sont toutes opérées, et il n'y a pas que les coréennes. Hein. Si vous allez dans n'importe quel pince-fesse avec des mannequins, il y en a la moitié qui aura le nez comme ça, et l'autre moitié aura le nez comme ça, parce qu'il y en a la moitié qui est opérée par Richardson et l'autre moitié par Graham. Voilà, et Carla Bruni, c'est le nez Graham. Enfin, tout ça se reconnaît comme ça. Et oui, c'est juste pathétique, mais... Surtout qu'en plus, c'est des opérations extrêmement destructrices. Se faire refaire le nez, ils y vont à la masse. Enfin, puis après, on a des problèmes de sinus. Enfin, c'est absolument pas anodin. Bon. Chacun son truc. Et effectivement, le bouquin dont vous parliez, c'est celui de Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels. Effectivement, c'est un type, mais genre en Italie, il est contemporain, genre de Machiavel, de César Borgia. Et il boit une potion d'immortalité. Et il y a une souris qui boit le fond du gobelet. Et il va voir passer comme ça les siècles les uns après les autres. Il tombe amoureux une fois, deux fois, trois fois, puis de moins en moins parce que il se lasse. Et à la fin, il passe ses journées, en fait, il va dans un jardin, il creuse le sol, il s'enterre sous les feuilles, et puis il attend qu'un siècle passe. Et il sait qu'à la fin de l'univers, quand toute vie aura cessé et que le soleil se sera éteint, il sera tout seul sur cette terre ravagée en compagnie d'une souris. Voilà. Et la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il commence à partir à la recherche de sa souris. Effectivement, c'est extrêmement déprimant et ça donne pas du tout envie d'être immortel. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là.